Vous écoutez, on lit pour vous.
Je suis sourde et je lis sur les lèvres. Une médecin de Montréal à l'écoute de ses patients malgré son handicap. Un texte d'Hugo Duchesne paru le 17 février 2025 dans le Journal de Montréal. Peu de médecins sont plus à l'écoute de leurs patients que l'interniste Michel Goulet à Montréal, et ce, même si elle est sourde. Ça me donne des forces complémentaires avec les patients, confie la médecin de 45 ans qui pratique à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Atteinte de surdité depuis la naissance, elle a appris à lire sur les lèvres. Ainsi, elle doit s'assurer de toujours regarder ses patients face à face pour les comprendre. Impossible pour elle de faire autre chose, comme taper sur un clavier pendant une consultation. « Je suis sourde et je lis sur les lèvres. » « Ça, je le répète 70 fois par jour », lance-t-elle en riant. Mais les patients sont compréhensifs et s'adaptent. Battement de cœur. La surdité de la docteure Goulet était moins sévère lorsqu'elle était enfant, dit-elle, où elle était encore capable de capter certains sons de la voix. Elle a donc appris à parler, et si l'on ignore son handicap, on n'y voit que du feu. Mais aujourd'hui, je n'entends presque plus rien, sauf des fréquences très graves, comme les battements de cœur au stéthoscope, ajoute-t-elle. Se lancer en médecine l'intimidait au départ, craignant que son handicap soit un frein à sa formation. On perçoit des barrières, mais souvent, les gens sont plus ouverts qu'on pense, explique l'interniste. À l'université, ses professeurs portaient un casque d'écoute filmant leurs lèvres pour lui permettre de suivre les cours sur son ordinateur et quelqu'un prenait des notes pour elle. La docteure Goulet souligne qu'elle n'aurait pas pu devenir chirurgienne car le port du masque en salle d'opération lui aurait nui. Elle a plutôt choisi la médecine interne, puisqu'il s'agit d'une spécialité plus axée sur le diagnostic et les interactions avec les patients. Il n'y a pas beaucoup de modèles de médecins ayant un handicap, reconnaît-elle. J'accepte d'en parler pour montrer que c'est possible et qu'on peut avoir des mentors. Surdité auto-immune. La médecin a aussi cofondé une clinique en surdité auto-immune à l'hôpital du Sacré-Cœur, un problème rare survenant chez les adultes pour lesquels les patients peinaient à trouver des soins. Je comprends la perte d'audition. Combien c'est stressant de perdre la capacité de socialiser, de parler au téléphone, regarder la télé, souligne la docteure Goulet, offrant ainsi une forte dose de compréhension et d'empathie à ses patients. Elle a notamment trouvé la pandémie très difficile, avec le port du masque qui l'empêchait de lire sur les lèvres. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à dépendre de ses filles jumelles, âgées de 8 ans, pour communiquer à l'épicerie, par exemple. C'était « Je suis sourde et je lis sur les lèvres », une médecin de Montréal à l'écoute de ses patients malgré son handicap. Un texte d'Hugo Duchesne paru le 17 février 2025 dans le Journal de Montréal.
La technologie au service des aînés. Un texte de Lisa-Marie Bélanger, paru le 20 février 2025 dans Université de ICI, Bas-Saint-Laurent. Les résidents du CHSLD de Rimouski peuvent se divertir et aiguiser leur ménage grâce à une table interactive. Le Tovertafel, un projecteur mis au point aux Pays-Bas, aide les personnes âgées notamment en diminuant l'apathie. L'appareil peut aussi être utilisé par les aînés qui présentent un trouble cognitif ou un déficit visuel. Imaginez pouvoir jouer au ballon, nourrir des poissons, compléter des casse-têtes, décorer un gâteau et préparer un potager tout en demeurant assis autour d'une table. C'est ce qu'il est possible de faire grâce au projecteur interactif fixé au plafond. L'appareil est très sensible et détecte le moindre mouvement. On touche à la pièce et le casse-tête s'assemble tout seul, explique le moniteur au loisir au CHSLD de Rimouski, Antoine Perron. Ça amène aussi le côté social entre les résidents, poursuit-il. Gisèle Deschênes, 90 ans, affronte Marthe Bourque, 79 ans, dans une partie endiablée de soccer. Les deux femmes n'ont qu'à pousser le ballon avec leurs mains pour qu'il se déplace virtuellement sur la table. Le but se trouve à chaque extrémité du terrain et les points se comptent automatiquement. Ah, puis ça applaudit en plus, laisse tomber Madame Deschênes en riant. C'est la première fois que je vois ça, moi. Je capote, ajoute son adversaire du moment, Madame Bourque. Levez les mains. Jouer au ballon, c'est de l'activité physique pour eux, fait valoir Antoine Perron. D'autres jeux font davantage appel à la mémoire, aux connaissances ou au sens de l'observation. Cognitivement, ça les garde affûtés, renchérit le moniteur au loisir. Ça peut être utilisé sur toutes les unités et c'est très apprécié auprès des équipes et des résidents, mentionne la chef d'unité pour le volet milieu de vie au CHSLD de Rimouski, Jeanne Boisvert. Elle précise que la table interactive peut être aussi utilisée dans les unités fermées où il y a des aînés atteints d'Alzheimer qui font de l'errance. Quand on allume le système, certains résidents tournent autour de la table, vont pouvoir y toucher et avoir de la stimulation à ce moment-là. L'appareil change d'étage chaque mois pour que le plus de bénéficiaires puissent en profiter. Au total, une quarantaine de jeux sont offerts. Ça ne devient pas redondant. Chaque fois que les résidents jouent, on essaie différentes choses, tout dépendant de leurs capacités. Le projecteur Tovertafel vaut environ 20 000 $. Il a été payé par la Fondation Santé Rimouski. Le CHSLD de Rimouski est le seul à avoir recours à cette technologie, mais quatre autres centres d'hébergement de la région utilisent un outil similaire. C'était « La technologie au service des aînés », un texte de Lisa-Marie Bélanger, paru le 20 février 2025 dans Université de Issy-Bas-Saint-Laurent.
Bécomo met à jour son plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Un texte de Raphaël Lavertière, paru le 19 février 2025 dans Ici Côte-Nord. La ville de Bécomo présente la plus récente mouture de son plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour 2024-2026. Récemment, le conseil municipal a voté en faveur d'une résolution pour l'adoption de la mise à jour du document. Bien qu'il soit élaboré pour une période de 3 ans, la ville doit présenter un bilan annuel des mesures prises et une projection de celles à venir, en vertu de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Selon la loi, la définition de personne handicapée désigne toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. En 2024, on est venu beaucoup consolider ce qui était déjà en place, indique la responsable de la politique et du plan d'action, Amy Foster, au micro de Côte à Côte, récemment. Les gens croient à tort que pour être accessible, il faut seulement qu'une chaise roulante puisse rentrer, rapporte-t-elle. Au contraire, une variété d'actions ponctuelles et de mesures à plus long terme doivent être réalisées, selon elle. Notamment, la proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées et de la Journée internationale des personnes handicapées a été officialisée, rapporte-t-elle. De surcroît, tous les projets de la ville devront désormais être soumis à une étape de réflexion sur l'accessibilité. La personne responsable devra se questionner à savoir « Est-ce que le projet doit être réfléchi en termes d'accessibilité universelle ?» explique Amy Foster. Ces projets peuvent inclure la construction de nouvelles infrastructures ou encore l'ajout de services publics, illustre la responsable du plan d'action. Cette année, une dizaine d'employés municipaux suivront une formation en écriture simplifiée. Des fois, dans nos jargons municipaux et dans nos grandes phrases, on oublie qu'on s'adresse à des citoyens et que certains ont des difficultés, témoigne Mme Foster. En 2025, la Ville cherchera aussi à promouvoir davantage la carte Accompagnement loisirs, qui permet aux personnes handicapées d'être accompagnées gratuitement d'une personne accompagnatrice lors d'activités culturelles ou de loisirs. C'était Baie-Comeau met à jour son plan d'action à l'égard des personnes handicapées, un texte de Raphaël Laverdière, paru le 19 février 2025 dans Ici Côte-Nord.
Les services administratifs dans le viseur de Santé Québec. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 21 février 2025 dans La Presse. Santé Québec poursuit son grand ménage. La Société d'État étudie l'idée de regrouper des services ou des départements, comme les ressources humaines et les affaires juridiques, des 30 établissements de santé qu'elle chapeaute. Elle veut faire des économies d'échelle, mais assure que aucune perte d'emploi n'est au menu. Ce qu'il faut savoir. Santé Québec mettra sur pied 7 groupes de travail qui auront pour mission de passer au peigne fin les services administratifs des 30 établissements de santé. Au terme de cet exercice, des services de SUS et CIS pourraient être regroupés. La Société d'État assure qu'aucune perte d'emploi n'est au programme. Elle dit vouloir augmenter la productivité dans le réseau et le partage des expertises. La Société d'État mettra en place dès la semaine prochaine 7 groupes de travail, dont le mandat consiste à revoir la structure de secteurs administratifs du réseau public, comme les technologies de l'information, les finances, les communications, l'approvisionnement, la logistique et les services techniques. Ces comités sont formés des PDG des établissements de santé, des directions touchées et des vice-présidents de Santé Québec responsables de ces secteurs. L'objectif? On veut accroître les synergies entre les établissements, augmenter la productivité et, dans le contexte financier actuel, c'est certain qu'il y a des économies d'échelle à faire. Yann Langlais-Plante, porte-parole de Santé Québec. Selon Santé Québec, cette démarche entraînera assurément une réorganisation dans des départements administratifs. Des services d'établissements de santé pourraient être regroupés ou mutualisés. Citation : Chaque direction de ressources humaines a un service d'invalidité. Est-ce qu'on pourrait centraliser ces services-là et faire des économies ? Fin de citation, demande Yann Langlais-Plante. Les services d'approvisionnement pourraient, par exemple, se regrouper pour acheter du matériel plutôt que de faire leurs achats individuellement, ajoute-t-il. Citation : Pour des campagnes de communication qui touchent l'ensemble des établissements, comme l'hygiène des mains, ça pourrait être géré à un endroit avec un pool de services communs pour l'ensemble du réseau. Fin de citation, affirme Yann Langlais-Plante. Tout est sur la table. À l'heure actuelle, chaque SIUS ou CIS organise sa propre campagne de sensibilisation en faisant appel, par exemple, à une firme externe pour le design graphique ou à un de ses employés. Selon Yann Langlais-Plante, tout est sur la table. Citation : On ne veut pas présumer de la finalité des recommandations qui vont être données. Fin de citation, précise-t-il. Chose certaine, citation : Il y a des choses à changer dans l'organisation des équipes administratives dans le réseau. Fin de citation, estime-t-il. Les groupes de travail doivent remettre leurs recommandations d'ici 2 mois. Citation : Par la suite, des décisions vont être prises par le siège social de Santé Québec. Fin de citation, indique Yann Langlais-Plante. Les employés administratifs du réseau ont été avisés de cette démarche dans un bulletin d'information diffusé jeudi en fin de journée. Santé Québec y affirme qu'elle souhaite, citation, élaborer des modèles organisationnels flexibles qui tiennent compte des spécificités de chaque établissement. Fin de citation. Les changements retenus, écrit la Société d'État, devront permettre d'améliorer, citation, l'expérience des usagers et celle des employés, l'accès et la qualité des services, l'efficience opérationnelle, la prise de décision rapide et la gestion de proximité. Fin de citation. C'était « Les services administratifs dans le viseur de Santé Québec », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 21 février 2025 dans La Presse.
Le ski nautique plus accessible aux personnes en situation de handicap. Un texte de l'équipe publicitaire de La Voix de l'Est, paru le 3 septembre 2024 dans La Voix de l'Est. L'Association d'orthopédie du Québec, par le biais de sa Fondation québécoise Orthopédie Outre-mer, a remis un don de 5 000 $ à la Fondation des sports adaptés. Ce geste vise à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport. Ce soutien financier permettra plus précisément d'adapter des planches de ski nautique, offrant ainsi une opportunité sécurisée à tous de pratiquer cette activité et de profiter de ses bienfaits. Comme orthopédistes, nous sommes heureux de pouvoir contribuer à rendre le sport accessible à tous et nous sommes particulièrement fiers de pouvoir soutenir des initiatives comme celle de la Fondation des sports adaptés. Nous espérons que cette contribution permettra à de nombreuses personnes en situation de handicap de vivre des moments de joie, de dépassement de soi et d'épanouissement grâce à la pratique du ski nautique, a souligné la docteure Véronique Godbout, présidente de l'Association d'orthopédie du Québec. Créée par l'Association d'orthopédie du Québec, la Fondation québécoise Orthopédie Outre-mer a pour mission de soutenir, à l'aide des contributions de ses membres, les projets humanitaires des orthopédistes du Québec et les initiatives de fondation visant à rendre les activités sportives inclusives. C'était le ski nautique plus accessible aux personnes en situation de handicap. Un texte de l'équipe publicitaire de La Voix de l'Est, paru le 3 septembre 2024 dans La Voix de l'Est.
Trop de pistes cyclables, trop vite pour les handicapés. Un texte de Simon Carmichael, paru le 18 février 2025 dans Le Soleil. Dans son empressement de déployer le réseau cyclable, l'administration Marchand a oublié de penser aux plus vulnérables, déplorent des associations de personnes vivant avec un handicap. Ils implorent la ville de prendre davantage de précautions dans l'avenir. Dans un mémoire déposé dans les derniers jours dans le cadre des consultations sur la stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec, le regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03, ROP-03, réclame un changement de vitesse dans le déploiement du réseau cyclable. Les groupes de défense des personnes vivant avec des handicaps remarquent que dans les dernières années, l'administration Marchand a accéléré l'aménagement de pistes cyclables aux quatre coins de la ville. Et souvent, cet empressement s'est fait aux dépens des personnes à mobilité réduite, dénonce-t-il. Puisque mal aménagées, les nouvelles pistes multifonctionnelles de l'administration Marchand nuisent au sentiment de sécurité des piétons aînés et des personnes vivant avec un handicap, affirme le mémoire. Elles rendent notamment les intersections plus dangereuses, les arrêts d'autobus moins accessibles et compliquent sérieusement le transport adapté. Le directeur général de regroupement des personnes handicapées visuelles de Québec, Chaudière-Appalaches, René Binet, affirme que les nouvelles pistes sont particulièrement risquées pour les personnes malvoyantes. Plusieurs nouvelles pistes cyclables ont été aménagées à la même hauteur que le trottoir et sans barrière physique. Impossible pour un piéton qui s'oriente à l'aide d'une canne de les distinguer clairement. Le danger de se retrouver en pleine piste sans s'en rendre compte est bien réel, souligne M. Binet, plusieurs anecdotes en tête. Une situation particulièrement dangereuse avec l'arrivée massive de véhicules de micro-mobilité, à vélo, cyclomoteurs et autres, qui filent à toute allure sur les pistes cyclables. Les organismes réclament que la ville aménage de véritables barrières physiques qui isolent les pistes cyclables des trottoirs. Un petit bout surélevé ou un bac à fleurs, par exemple, propose René Binet, qui estime ne pas exagérer en demandant une balise facilement détectable pour sa sécurité. Exemple à ne pas suivre. Après des années à s'inquiéter des conflits entre piétons et cyclistes, M. Binet et Véronique Vézina, qui représentent 28 groupes de personnes handicapées, identifient le printemps 2023 comme point de bascule. À ce moment-là, l'administration Marchand annonçait l'aménagement d'une piste cyclable, Vélocité, dans les deux directions du chemin Sainte-Foy. L'infrastructure, qui a été installée à vitesse grand V, a été la goutte de trop. Quand ils ont fait la piste cyclable sur le chemin Sainte-Foy, on s'est dit « Waouh, là, vous allez trop vite, ça ne fonctionne pas ». Les organismes de défense des personnes handicapées jugent que la piste du quartier Saint-Sacrement est un exemple parfait de ce qu'ils reprochent à la ville. Le corridor de la Haute-Ville, un projet signature de l'administration Marchand, est au bord d'un axe majeur de transport en commun aux nombreuses intersections dans un quartier où les aînés et les piétons sont nombreux. Son collègue, qui représente les résidents de la région qui ont un handicap visuel, déplore aussi la manière dont les choses ont été faites. La ville nous a consultés, mais à la dernière minute, le projet était déjà lancé. La ville est allée trop vite, je persiste et signe. René Binet, directeur général de Regroupement des personnes handicapées visuelles de Québec, Chaudière-Appalaches. Véronique Vézina note d'ailleurs que c'est souvent le cas. Malgré les consultations, la Ville de Québec agit peu par rapport aux préoccupations soulevées par le ROP-03 et ses partenaires dans le dossier des pistes cyclables. On les harcèle quasiment depuis déjà de nombreuses années pour la question des pistes cyclables, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Devons-nous attendre un article de journal sur une personne âgée, un enfant ou une personne handicapée entre la vie et la mort pour que la ville agisse? Se demande d'ailleurs le regroupement des personnes handicapées visuelles dans son mémoire. Tout comme le ROP-03. Il milite pour des consultations systématiques des groupes communautaires et une étude sur l'impact de l'implantation des nouvelles pistes. Et ce, avant leur aménagement, pas après. Solution et rattrapage. Selon les auteurs des mémoires, plutôt que d'appliquer les demandes des groupes qui s'inspirent des pratiques de villes comme Montréal et Ottawa, Québec part souvent à la recherche de solutions neuves. Il y a eu de la consultation. Il y a eu 2-3 réunions de consultation dans le cadre de la table d'accessibilité universelle, énumère René Binet. Mais ça fait 1 an et demi, puis la solution n'est toujours pas trouvée, poursuit-il. Pendant ce temps-là, les nouvelles pistes se multiplient, ajoute Véronique Vézina. C'est d'ailleurs pourquoi les groupes qui représentent les personnes vivant avec un handicap réclament que l'administration Marchand s'engage à rattraper les pistes déjà aménagées. Soit que celles-ci soient bonifiées, voire revues, afin de redonner aux piétons les plus vulnérables leur sentiment de sécurité au bord des tronçons cyclables. Les groupes demandent aussi à la ville de les considérer dans sa vision zéro, qui vise à éliminer tous les accidents sur le réseau routier. C'était trop de pistes cyclables, trop vite pour les handicapés, un texte de Simon Carmichael, paru le 18 février 2025 dans Le Soleil.
Je suis vraiment barricadé chez nous. Une Montréalaise en fauteuil roulant était prisonnière de son appartement. Un texte d'Éloïse Archambault, paru le 19 février 2025 dans le Journal de Montréal. Une Montréalaise qui se déplace en fauteuil roulant déplore qu'elle ait été séquestrée dans son appartement pendant près d'une semaine parce que le trottoir extérieur n'avait toujours pas été déblayé depuis les deux tempêtes de neige. « Je suis vraiment barricadée chez nous. Je me sens séquestrée. Je ne peux pas sortir pour aller faire mon épicerie », déplorait Christiane Forgette lors d'un entretien avec le journal. Depuis 6 jours, la Montréalaise de 62 ans était confinée chez elle en raison des deux tempêtes historiques qui ont laissé 70 cm de neige au sol sur la métropole. Après la publication de l'article du journal, un déneigeur a finalement été dépêché le soir même devant son HLM, habitation à loyer modique, dans Hochelaga-Maisonneuve pour dégager son entrée. C'est toute une coïncidence qu'il vienne finalement déneiger après l'article, ironise Mme Forgette. En tout cas, merci beaucoup. Bien qu'elle se déplace en fauteuil roulant, la femme est autonome et fait normalement toutes ses commissions. Elle a failli tomber. Mais depuis plusieurs jours, environ 1 mètre de neige recouvrait le trottoir avec rampe adaptée qu'elle utilise en temps normal. Étudiante à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, Mme Forgette a dû renoncer à aller à son cours il y a 2 jours. « Ce n'est même pas assez large pour que mon déambulateur passe », déplorait la femme, qui a failli tomber il y a 4 jours en tentant de sortir. « C'est toujours l'incertitude. Est-ce que je vais pouvoir sortir? Si je tombe malade, ils vont venir me chercher comment ?» s'inquiétait-elle. Par ailleurs, Mme Forgette déplore que des trottoirs autour du bâtiment aient été déneigés depuis 6 jours, mais pas la rampe d'accès dont elle dépend pour se déplacer de façon sécuritaire. « Ils sont venus déneiger et ils ont tout mis la neige dans ma rampe d'accès », rajoute-elle. Depuis quelques jours, sa fille et sa petite-fille sont venues lui porter des biens essentiels et lui rendre visite. « Si j'ai besoin de quelque chose, je dois attendre après elle. » Mais elles n'ont pas juste ça à faire. Finalement déneigé? Après la publication de l'article, l'Office municipal d'habitation de Montréal a répondu au journal, l'après-midi même, que tous les bâtiments devraient être dégagés d'ici 2 jours. Nous priorisons en effet les lieux où nous avons des personnes à mobilité réduite, mais nous les retrouvons dans un très grand nombre de bâtiments, a écrit la porte-parole Valérie Rehm. « Je comprends qu'il a neigé beaucoup. Je sais que je ne suis pas la seule, mais je dénonce pour tous ceux, comme moi, qui n'ont pas de voix », dit Mme Forgette. C'était « Je suis vraiment barricadée chez nous ». Une Montréalaise en fauteuil roulant était prisonnière de son appartement. Un texte d'Éloïse Archambault, paru le 19 février 2025 dans le Journal de Montréal.